de retour en compagnie d'Élisane Pellerin. Élisane, bonjour.
Bonjour, François.
Pour nos auditeurs, les habitués de Sans détour, Élisane à midi 45. Et oui, à la demande générale, on n'a jamais assez de revues de presse. Il se passe tellement de choses à gauche, à droite et de partout dans le monde. Bien, on s'est dit, il faut faire plus de revues de presse. Alors, Élisane, on vient d'élargir notre plage horaire et c'est tant mieux. Et voilà, on commence tout de suite.
Oui, on commence donc avec l'ARCOM, l'Autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques, qui pourra imposer des sanctions jusqu'à 50 000 euros pour des sites Internet qui ne seraient pas aux normes d'accessibilité en France.
Oh, l'ARCOM. Donc ça, c'est une autorité de régulation qui a des griffes, là, qui a des dents.
Oui, bien quand même, des griffes dans votre portefeuille, à tout le moins.
Ouais.
Parce que
c'est le meilleur argument, ça.
C'est un très bon argument, surtout quand on parle de quand même 50 000 euros. Je sais pas vous, François, mais moi, 50 000 euros, ça me ferait mal.
Ben, personne... S'il y avait 50 000 euros sur le plancher, on se pencherait tous pour le ramasser. L'accessibilité numérique, donc, de ces sites-là, parce qu'il y a une obligation que les sites soient accessibles en France.
Il y a une obligation que les sites soient accessibles en France depuis 2005, donc ça fait 20 ans. Malheureusement, il y a un peu plus de 3 % des sites qui répondent à toutes les demandes d'accessibilité, à toutes les contraintes d'accessibilité, devrais-je dire. Donc, 3 % c'est très petit.
C'est pas beaucoup, là.
C'est minime, minime.
Ça laisse un 97 % de l'autre côté.
Donc, on parle quand même de 106 règles au niveau de l'accessibilité générale. Entre autres, il faut avoir... il faut mettre la police visible, donc que les gens puissent lire la règle d'accessibilité sur le site web. Il faut aussi que les sites web, au niveau des contrastes, soient accessibles pour les personnes qui ont des difficultés visuelles. Au niveau des polices également, la grosseur des textes. Et évidemment, j'en parle parce qu'il y en a 106. Et donc, on se rend compte que malheureusement, ces règles-là ne sont pas suivies malgré la loi qui date de 20 ans, et la raison à ça, François, c'était que, justement, la loi était là, mais qu'on n'avait pas de mesures de sanctions.
Oui. C'est ça. S'il n'y a pas de sanctions liées à une réglementation, ben son application est vouée à la bonne volonté, puis c'est souvent, ben ça va passer en dessous du tapis. C'est pas très fort. Mais là, on peut se penser que 50 000 euros, ça va faire réfléchir. Puis certainement qu'une mise à niveau d'un site qui n'est pas conforme va coûter peut-être moins que 50 000 euros. Alors peut-être que ça vaudrait la peine de payer un peu pour mettre le site à niveau.
Et à tout le moins, il devrait avoir beaucoup plus de surveillance. François, comme l'ARCOM vient de sortir et de nommer quelqu'un qui va faire cette surveillance-là, qui va pouvoir donner les amendes, la surveillance va être accrue. Et donc, on peut penser que les sites web vont faire un peu plus attention, du moins ceux qui les hébergent, vont faire un peu plus attention au niveau de l'accessibilité universelle.
Bravo. Au Luxembourg, on va aller du côté du Grand-Duché, au Luxembourg, ils ont aussi une politique d'accessibilité, puis ils s'y prennent d'une autre façon qui, elle aussi, peut-être va fonctionner.
Oui, au Luxembourg, donc, on parle, d'après un rapport qui vient de sortir, de l'accessibilité numérique pour le web. Ça se passe de mieux en mieux. Par contre, pour les applications mobiles, on manque un peu, on donne un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que les applications mobiles ne sont toujours pas aussi accessibles qu'on le voudrait au Luxembourg, malgré le fait que ça avance d'année en année.
Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est qu'ils ont nommé des sites web public qui ont fait l'objet d'un audit d'accessibilité détaillé, puis ils ont publié cette recherche-là, puis l'analyse a été effectuée donc selon de très nombreux critères par rapport à 2022, le conseil positif. Le taux de conformité de ces sites s'établit maintenant à 54 %. C'est mieux que 48 % l'année précédente. Évidemment, 54 ça veut dire que c'est à moitié accessible. Ça c'est un peu ennuyeux quand même. L'objectif, c'est d'être de 100 % il y a des défauts majeurs quand même qui ont été constatés.
Il y a des défauts majeurs qui ont été constatés. Entre autres, il y a des besoins au niveau des contrastes suffisants, de l'absence de titres appropriés, difficultés à structurer l'information. On veut aussi, donc... pouvoir doubler la taille de caractère.
D'accord.
Ouais. En gardant l'ensemble du texte visible pour les personnes qui en auraient besoin pour lire. Et donc, le site web qui a le mieux répondu aux attentes le fait à 89%. Ah. Donc ça, c'est le meilleur. Donc,
ben, c'est bien. Mais je pense que de nommer puis de rendre public les... Parce que là, on parle de sites web de grandes sociétés qui sont présentes au Luxembourg. Alors, ces entreprises, ces organismes-là ont tout intérêt à bien paraître. Là,
oui,
à...
bien, en fait, quand tu es nommé dans un rapport comme étant soit le meilleur, soit le pire, tu veux être le meilleur.
Voilà, et ça pince un peu. C'est pas comme le 50 000 euros, mais là, on fait quand même appel à des considérations.
On est quand même à palmarès, puis au niveau de l'orgueil et au niveau oui. Aussi, bon, au niveau marketing, bien sûr, parce que tu veux pas te faire taper sur les doigts, ça donne une mauvaise publicité à ton entreprise. Et donc, tu voudrais avoir une bonne publicité et...
Une bonne image,
de faire dire que t'es quelqu'un qui se soucie de ta clientèle au niveau des personnes qui pourraient avoir des handicaps, ça passe beaucoup mieux que de paraître le contraire, en fait, de paraître pour une entreprise qui ne respecte pas ses utilisateurs. Donc, tu veux être du bon côté de la médaille.
Ben, et ça me fait penser, on va traverser l'Atlantique, on va revenir par chez nous, parce que ce que tu viens de dire, Lisanne, ça me fait penser à ce qui arrive aujourd'hui au Québec, parce que vous le savez, c'est la semaine de la canne blanche qui se déroule du 4 au 10 février. Ah, ça, c'est important d'en parler. Et dans le cadre de la semaine de la canne blanche, le RAM, le Rassemblement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, dévoile aujourd'hui, là, c'est tout frais. Ses coups de cœur et ses coups de gueule pour 2024.
Oui, donc ça a sorti il y a quelques heures, François. Donc, Desjardins, qui est le coup de cœur annuel pour son engagement pour l'accessibilité qui se reflète dans la culture de l'entreprise, qui travaille à abolir les obstacles pour l'ensemble de ses clients. Parmi les finalistes, on avait aussi la plateforme Tout.tv de Radio-Canada et le Musée d'art contemporain de Montréal.
Moi, je me souviens que et c'est important parce que les services financiers, là, être capable de gérer son compte de banque, payer ses factures, ainsi de suite, là, c'est un besoin essentiel.
C'est une bonne base pour l'autonomie.
Ben oui, tout à fait. C'est essentiel dans la vie moderne, puis pour être autonome et pas avoir besoin de demander à quelqu'un de le faire pour nous. Exact. Alors que Desjardins donne l'exemple aux institutions financières en ayant un site qui est accessible. Ça, c'est excellent. Puis ça a été souligné, donc, par le prix Coup de cœur 2024. Et il faut le souligner, ce prix-là, c'est un prix qui est populaire, dans le sens où ce sont le RAM, pendant toute la deuxième moitié de 2023, demande à ses membres, et le courriel circule pas mal partout dans la communauté, donnez-nous vos coups de cœur. Et donc, ça vient de la base, ça vient des usagers. C'est pas rien, ça.
Et quand même, le RAM a une grande communauté. Là, quand ils sont très, très connus. Donc, ça donne à Desjardins un beau coup de pouce, un beau coup de cœur pour continuer l'accessibilité. Effectivement, c'est très important dans l'optique où donner son NIP à quelqu'un, ça cause toujours des problèmes. Donc, il faut essayer d'éviter. Et, tant mieux si les personnes en situation de handicap peuvent être autonomes.
Exactement. Puis ben là, il y a l'envers de la médaille parce qu'il y a aussi la remise du prix coup de gueule. Hein? Alors, c'est un peu comme le prix orange, le prix, prix citron. Alors, malheureusement, il y a aussi des organismes, des entreprises dont les services en ligne sont très déficients. Puis là, on pointe du doigt toutes les épiceries.
Oui, on a pointé du doigt largement, François. Donc, toutes les épiceries, avec toutes les bannières confondues, les épiceries et circulaires en ligne se méritent le coup de gueule, pour leur consultation qui manque d'accessibilité. Donc, pour les personnes malvoyantes ou aveugles, bien sûr, essayez de voir un circulaire en ligne. Vous irez voir, là, c'est très, très compliqué, c'est très petit, ça s'ouvre.
Ça fait penser, tout à l'heure, on parlait du Musée d'art contemporain qui fait très bien les choses en termes d'accessibilité, mais un circulaire là, avec toute la couleur, les photos, oui. C'est touffu. En week-end, j'étais en train d'explorer le circulaire en ligne d'un magasin grande surface qui se spécialise dans les pneus canadiens et ce n'était pas facile, croyez-moi.
Non, ça, c'est pas... En fait, pour quelqu'un qui a pas de déficience visuelle, ça n'est déjà pas facile.
Ouais.
C'est difficile de manœuvrer là-dessus et d'essayer de retrouver où est-ce que t'es dans la page parce que les zooms sont gros et tout ça. Donc, je n'imagine pas là pour quelqu'un qui a une déficience visuelle en plus. Et les épiceries en ligne deviennent de plus en plus populaires. C'est plus facile pour les personnes
pour les
en situation ben oui. d'handicap, particulièrement l'hiver. Et malheureusement, là, ça peut devenir tout un casse-tête là, quand on n'est pas capable de voir ce qu'il y a dans le circulaire et qu'il faut
parce
essayer
que...
de deviner.
Oui, parce que ça peut nous éviter de sortir sur un trottoir mal déneigé.
Oui.
comme il y a une précarité alimentaire, d'avoir des aubaines, c'est important. En parlant de trottoir mal dégagé, le coup de gueule en deuxième place, c'est pas tellement loin derrière. Il y avait les pistes cyclables de la ville de Montréal. Qui sont difficiles, je dirais. De...
Oui, on en a parlé dans les dernières semaines. Là. C'est encore difficile à Montréal. Il va falloir améliorer ça.
Oui, tout à fait. Ben, on fait une petite pause, Élisane, puis on revient, puis on va parler de mesures du gouvernement canadien pour l'emploi et on aura notre chronique ligne aérienne.
Écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Et Élisane Pellerin, ben maintenant qu'on est de retour au pays pour la revue de presse, on va continuer.
On va continuer et comme vous le disiez, François, avant la pause, on va parler du ministre de l'Emploi, du Développement et de la main-d'œuvre et des langues officielles, Randy Boissonneau, qui a annoncé une campagne publicitaire qui s'appelle « Milieu de travail inclusif » qui se déroulera jusqu'en mars 2024. Comme le nom l'indique, François, l'objectif de cette campagne est de sensibiliser les employeurs au fait que les personnes en situation de handicap sont une source importante de talents qui peuvent apporter un large éventail d'expériences dans le milieu du travail. On parle bien sûr des problèmes de main-d'œuvre ces jours-ci depuis oui. plusieurs semaines, plusieurs mois, et il ne faut pas oublier que les personnes en situation de handicap sont une main-d'œuvre qu'on n'utilise pas assez.
Sous-utilisée, c'est d'une part, il y a un besoin criant de main-d'œuvre, puis d'autre part, il y a tout un bassin de population qui ne demande que ça. Hein? Voilà.
Oui, et comme on le disait, bon, c'est bon évidemment pour l'économie, mais c'est bon aussi pour la société au niveau social. Ces gens-là, quand ils ne sont pas isolés, ils développent évidemment moins de problèmes de santé mentale, de santé physique. Et donc, c'est toujours bon pour, c'est bon pour tout le monde, au bout de la ligne, tout ça. Et donc, la campagne va toucher les petites et moyennes entreprises par intermédiaire de publicité sur les médias sociaux et sur le web, dans les balados et à la radio. Donc, on va mettre en évidence le site internet canada.ca/ juste là.
Juste là, oui. Ben, moi, ça me fait penser, il y avait avant, ça fait très longtemps ça, il y avait une taverne sur la rue Atwater qui s'appelait la taverne Dretla. Ça a disparu. Oui, c'est pas des blagues. C'était marqué Dretla avec une grosse flèche.
J'ai une idée, mais je n'ai pas connu.
Non, ben voilà. Alors, c'est, je trouve ça amusant qu'un site s'appelle juste là, en voulant dire, ben, c'est juste là. C'est un répertoire de renseignements et d'outils et de ressources sur la façon d'embaucher des personnes en situation d'handicap et de créer des milieux de travail inclusifs. Alors, c'est pas compliqué pour les employeurs, c'est canada.ca/ juste là. Hein? J-U-S-T-E-L-A. Et sur ça, on va trouver des renseignements sur le Fonds pour l'accessibilité. Enfin, il y a plusieurs programmes du gouvernement. Il y a le Fonds sur l'accessibilité, le programme de stage pratique pour les étudiants, le programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, le programme Emploi d'été Canada, la stratégie canadienne de formation, le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées à créer des milieux de travail plus inclusifs et plus accessibles. Ouf!
Effectivement, il y a plusieurs programmes qui peuvent aider à l'inclusion des personnes en situation d'handicap qui sont très positifs pour les employeurs qui décident de s'y lancer. Il y a quand même plusieurs choses que vous pouvez faire là pour inclure des personnes en situation d'handicap sans que ça vous coûte trop cher.
Voilà. Et donc, ça, cette campagne-là a été lancée. De la part du ministère de l'Emploi. Alors, on a hâte de voir ou d'entendre les annonces, là, un peu savoir comment ça résonne, tout ça. Bien, on espère que ça va conscientiser des employeurs qui vont faire le saut pour avoir une clientèle efficace, loyale et qui sera également, je dirais, un moteur économique en plus. Au Québec, les RPA, encore ce matin, il y avait une nouvelle d'un RPA qui venait de fermer à Côte-Saint-Luc. Il y a eu un témoignage là, dans les RPA, les loyers sont astronomiques.
Oui, les loyers ne cessent pas d'augmenter, François, et on en parle depuis plusieurs semaines. On a des problèmes au niveau des loyers, au niveau général, mais bien sûr, là, quand on parle de RPA, donc de résidence pour aînés, on parle d'une population qui est particulièrement vulnérable. Et déjà, les logements n'étaient pas facilement abordables avant la crise du logement. Donc, imaginez maintenant, on parle de hausse dépassant les 65%.
Ouf! Oui, et il faut bien comprendre que souvent, c'est dans des situations de RPA où il y a ce qu'on appelle catégorie 3 ou 4, là, où il y a un certain niveau de service au-delà du simple logement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont vendues à la pièce. De faire tel geste ou de faire tel geste pour la personne,
Ben
ça fait des micro-factures. Puis ça minote. Là, à la fin du mois, c'est fou. Il y avait un article dans la presse, je pense, où on parlait de quelqu'un qui était rendu à 111 000 $ par année pour se loger. C'est pas une façon... C'est pas viable, voilà.
Non, 111 000 pour une personne âgée, donc, qui probablement est à la retraite, là, imaginez. Même pour quelqu'un qui travaille activement, là, c'est...
Pour n'importe qui.
Voilà, il y a très peu de gens qui font plus de 100 000 $ par année.
Pour se loger.
Pour se loger, voilà, effectivement.
Pas encore manger ici, là. Mais donc, voilà, donc les RPA sont en crise. Et Québec alloue de l'argent pour ça.
Oui, Québec a donc annoncé qu'on allait donner un peu d'argent pour essayer justement de réduire le nombre d'RPA qui ferment parce que les fermetures sont un grave problème et les fermetures font en sorte qu'on amène une rareté qui fait en sorte aussi qu'on peut augmenter les frais des services.
Exactement.
Et que les pauvres personnes qui sont dans ces RPA-là n'osent pas contester, n'osent pas partir parce qu'ils savent bien qu'il va y avoir de la difficulté à trouver un autre endroit où rester. Donc, voilà, pour répondre à ça, le gouvernement du Québec a donné une enveloppe budgétaire qui va permettre aux petites RPA, donc... pouvoir donner des services sans trop augmenter la facture. On parle de 200 millions pour soutenir les RPA de 30 logements ou moins.
Moins, c'est ça qui est la petite RPA, c'est défini comme 30 logements ou moins. On parle de 200 millions sur 5 ans, donc c'est 40 millions par année. Ça va faire un bout de chemin. André Castonguay, directeur du Réseau québécois des OSBL d'habitation, applaudit cette initiative, mais c'est certain aussi que ça fait pas... C'est bon, ce sera pas assez. Il y a comme... dans une société où la population vieillit, que des résidences pour personnes âgées ferment, là, ça va comme dans un contre-courant de démographique. À Magog, ça va dans l'autre sens.
Oui, ben faut bien ramener un peu de bonnes nouvelles, François. Pour ne pas déprimer nos auditeurs.
Surtout quand il fait soleil.
Voilà. Donc, la Maison des aînés et alternative de Magog, qui est située au coin de la route 112 et du chemin Soutière, qui ouvre, François, donc, qui ouvre cette semaine.
Oh!
La semaine prochaine, là, je m'avance un peu, c'est la semaine prochaine. Donc, le 13 février, juste à temps pour la Saint-Valentin. Ça devait ouvrir donc à l'automne 2022. Malheureusement, ça a été retardé pour les mêmes raisons que d'habitude, là, c'est-à-dire des hausses de frais, des problèmes au niveau de la construction et tout.
Exact.
Et donc, la bonne nouvelle, François, c'est que voilà, ce sera ouvert le 13 février prochain. Le budget initial était de 40 millions de $. On n'a pas beaucoup d'informations sur combien ça coûtait finalement, quelles ont été les causes des délais et tout ça. Mais en tous les cas, ce sera ouvert là, pour 36 personnes, soit 24 aînés et 12 personnes adultes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Bon,
le projet a débuté en septembre 2021 et donc aura pris un peu plus de 3 ans.
C'est sûr qu'au moment de l'ouverture, tout ça est derrière soi, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, la liste d'attente s'allonge au fur et à mesure que les gens en haut de la liste, trouve un chez-soi. Ah, ben voilà notre chronique ligne aérienne.
Oui, la chronique ligne aérienne qu'on attend à Montu avec impatience chaque semaine. Et donc, Air Canada pour nommer une nouvelle compagnie, François.
Oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'eux.
Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'eux, et donc on va en parler. Encore une fois, par contre, c'est pour une bonne nouvelle. Oui. Hein, j'ai deux bonnes nouvelles de suite, François, aujourd'hui. Ce qui ne m'arrive pas souvent, je voulais vous faire plaisir. Donc, Air Canada qui adhère à un programme pour soutenir les clients avec une situation de handicap. On a déjà parlé de ce programme-là ici, François. On appelle ça le programme Tournesol pour les handicaps invisibles. Donc, les personnes peuvent volontairement porter un petit porte-clés avec des motifs de tournesol pour indiquer qu'ils ont besoin d'un service peut-être un peu plus soutenu étant donné une situation d'handicap à l'intérieur de l'aéroport.
Ça peut être un handicap invisible, ça peut être des séquelles ou des manifestations de la maladie d'Alzheimer, ça peut être lié à des troubles du spectre de l'autisme, ça peut être une perte d'audition, ça peut être une personne qui est handicapée visuelle, qui malheureusement n'a pas sa canne blanche, mais devrait l'avoir, mais quoi qu'il en soit, elle ne l'a pas. Enfin, il y a toutes sortes
A sa canne blanche, mais qui a besoin d'un peu plus de service. Donc, en fait, c'est très large. Hein? C'est pour les personnes qui ont besoin d'un service un peu plus soutenu au sein de l'aéroport et qui veulent pouvoir être identifiés facilement par les employés pour que ceux-ci prennent un peu l'avance et offrent des services. Et évidemment, Air Canada, on en a parlé dans les dernières semaines, François, il y avait un petit peu de difficulté au niveau justement des services pour les personnes en situation de handicap.
Il y avait un rattrapage à faire, mais enfin, tant mieux s'ils vont dans la bonne direction. Air Canada a mentionné être devenue la première société aérienne nord-américaine. British Airways, Air France, KLM, Ryanair en Europe ont déjà adopté ce programme-là qui est né en 2016 à l'aéroport de Gatwick en banlieue de Londres. Il y a déjà plusieurs aéroports. En fait, il y en a 200 et quelques à travers le monde, mais au Canada, il y a déjà celui de Calgary, Edmonton, Ottawa, Toronto, Vancouver et celui de Winnipeg, dont on avait parlé il y a, en novembre. Pas encore Montréal-Trudeau, mais ça va venir, j'en suis sûr.
Ça viendra.
Voilà. Les employés d'Air Canada vont être formés pour avoir... offrir des services de soutien supplémentaires quand ils vont reconnaître que quelqu'un porte un foulard ou un porte-clé avec un motif de tournesol. Et d'ailleurs, c'est le cordon tournesol qu'on pourra porter autour de son cou sera disponible au comptoir d'enregistrement de plusieurs aéroports du pays et à bord de tous les vols d'Air Canada. Alors, la prochaine fois que je prends l'avion, je demande mon cordon tournesol juste pour faire un petit test, là.
Oui, et vous nous prenez une belle photo, François, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux.
Voilà. Alors, bien, maintenant, en termes de projets communautaires, de choses de ce genre-là, il y a une injustice à travers... on revient du côté négatif. Les personnes invalides au Québec qui se battent pour avoir une retraite adéquate avaient remporté une victoire au tribunal administratif du Québec. Le gouvernement avait fait appel. Et puis maintenant, le tribunal administratif fait volte-face en convoquant les gens qui avaient contesté cette injustice en leur disant que le dossier avait été suspendu. Ça va pas dans le bon sens.
Ça va pas dans le bon sens, et d'autant plus, justement, qu'on a contacté ces gens-là et qu'elles doivent se présenter en chair et en os, donc oui. Se présenter physiquement au tribunal pour ces questions juridiques, peu importe leurs conditions physiques, ce qui semble être un non-sens pour plusieurs personnes, évidemment, parce que il y a des personnes en situation de handicap pour qui le déplacement est difficile et on n'a pas pensé à une façon d'aider ces gens-là, d'offrir une alternative, particulièrement là, en plein hiver, pour que ces gens-là puissent réclamer leurs droits sans se casser une hanche.
Ben voilà, peut-être que toutes ces audiences auraient pu faire par Zoom ou par d'autres moyens, là, pas nécessairement en présentiel. Cette exigence-là semble un petit peu... inutile.
Hein? Oui, voilà. Ben ça va dans le même sens que le recours qui a été mis sur pause, en fait. Non?
Oui.
On voit une espèce de manque de cohérence ou de manque de volonté, je ne sais trop, transparaître au travers ces procédures-là.
Voilà. Ben pour terminer la revue de presse locale, si je peux dire, il faut parler de goalball. Hein?
On va parler de goalball et on revient aux bonnes nouvelles.
Ouais. Ben, connaissez-vous le goalball, Élisane?
Je ne connais pas le goalball, mais je suis allée voir ce week-end, François. Ça m'a fait un peu penser au hockey sonore dont on parlait, vous et moi, dans les dernières semaines.
Le goalball a été inventé après la Seconde Guerre mondiale comme moyen de réadaptation pour les personnes devenues aveugles pendant la guerre. Alors, il a fait son entrée aux Jeux paralympiques en 1976. Essentiellement, ça joue ces deux équipes de trois joueurs chacune, qui sont dans un gymnase, à peu près la dimension d'un court de volleyball, avec un but qui est très bas et très, très, très large. Puis on lance un ballon qui est très lourd dans lequel il y a une clochette. Ce qui est un peu spécial dans le goalball, c'est qu'on demande à la foule d'être parfaitement silencieuse pendant la compétition parce que les compétiteurs sont aveugles ou même s'ils avaient un résidu, ils portent un bandeau pour s'assurer qu'ils ne voient que dalle. Alors, il faut se repérer uniquement au son, en conséquence, mais il ne faut pas que la foule scande des encouragements. Alors, il y a eu à Montréal, la semaine dernière, la 22e édition du tournoi Invitation de goalball de Montréal, organisé par l'Association sportive des aveugles du Québec. Ça, c'était quand même la 20e. Et dans l'univers du goalball, qui est un sport paralympique maintenant, depuis presque 35-40 ans. C'est un événement majeur. Là. C'est comme un des gros tournois de l'année. Ça a eu lieu au centre récréatif Gadebois cette année. L'équipe masculine du Québec s'est qualifiée, mais a terminé quatrième. Et l'équipe féminine a terminé quatrième. L'équipe masculine, cinquième. Les équipes québécoises de goalball, tant féminine que masculine, sont en reconstruction, dirons-nous, dans le jargon sportif. Voilà. Mais ce sont d'autres provinces canadiennes qui ont remporté.
Oui, donc chez les femmes, on parle de l'Ontario qui a remporté. Chez les hommes, la Nouvelle-Écosse, donc pas de chance pour le Québec, mais ils ont quand même bien performé. Il faut dire qu'il y avait 6 équipes au niveau masculin. 4 équipes, pardon, au niveau féminin. Et donc, pour les équipes du Québec, il faudra, vous le dites, François, se reconstruire. Mais quand même, c'est une belle façon, dis-je, de faire connaître un goalball. Et c'est toujours amusant là, pour les sportifs de se retrouver et de pouvoir pratiquer leur sport. Peu importe les résultats, l'important, c'est de participer.
Oui, mais c'est tellement plus plaisante que de gagner. Alors, mais je ne devrais pas dire ça, c'est une philosophie personnelle.
Oui, voilà.
Voilà, on se retrouve après la pause. Ah ah! Eh bien, vous serez heureuse d'apprendre, Élisane, que l'INCA en février va être tout près de chez vous.
Oui, ils vont faire un petit tour à Saint-Jérôme. Donc oui, effectivement, tout près de chez moi. Et il va y avoir quand même plusieurs belles activités, François, pour les gens que ça intéresse.
Il va y avoir, en fait, ce sont les 28 et 29 février. Oui, on est une année avec un 29 février. Et ça va être, donc, la rencontre aura lieu au Comfort Inn 255 de Martigny à Saint-Jérôme. Alors, si vous êtes de Saint-Jérôme, vous savez où est le Comfort Inn. Et le 28 février, il va y avoir des kiosques.
Oui, des kiosques comme d'organismes de la région. Donc, entre 13h et de 13h à 14h, devrais-je dire, et de 16h à 17h. On parle de plusieurs organismes, dont l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, le Bouclier aussi, qui est le CSS des Laurentides. On va aussi avoir le regroupement des usagers du transport adapté et collectif des Rivières du Nord et l'ARLPHL.
Oh!
L'Association régionale des loisirs pour les personnes handicapées des Laurentides qui vont être là.
Donc, ils vont avoir leur kiosque. Ça, c'est le mercredi 28 février, faisant partie de la caravane, si je peux dire, le hub de l'INCA qui se déplace. Le mercredi 28, évidemment, il va y avoir une présentation des services de l'INCA qui va faire partie. Non seulement ils vont présenter leurs services qui est disponible au travers de l'INCA, mais également les services des organismes communautaires de la région pour la déficience visuelle et d'autres types de handicap. Le lendemain, jeudi 29.
Le jeudi 29, François, peut-être que je vais y aller parce qu'il va y avoir un programme techno qui va permettre de tester des applications et différentes technologies. Et moi, j'aime beaucoup ça, François. Donc, c'est avec Mme Karim de 9h à 10h30 le jeudi 29. Donc, des lunettes Iris Vision qui permettent d'agrandir ce que vous voyez, d'augmenter le contraste. Un cellulaire accessible conçu pour les personnes vivant avec une limitation visuelle, Blindshield Kiosk 2. Quatre modèles de loupe numérique également. Des lunettes d'assistance intelligente OCAM qui peuvent, entre autres, lire du texte et reconnaître des gens pour vous. Donc, j'ai bien envie d'essayer ça, François. C'est des choses que je n'ai jamais essayées et que je trouve absolument fascinantes.
Bien ça, il faut se rendre au Comfort Inn les 28 et 29 février. Donc, le hub de l'INCA. L'INCA qui... dans ses locaux de Montréal et aussi à distance, offre des ateliers. Il y en a un, entre autres, sur comment se protéger des communications frauduleuses. Oui, tous les jours, on est bombardé de courriels ou de messages textes là, de gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. On est sollicité par toutes sortes de pubs, de courriers, d'appels, de textos. Alors, comment démêler le faux du vrai? C'est un atelier qui aura lieu le 20 février de 13h30 à 15h pour mieux se protéger des communications frauduleuses. Tout ça est offert par l'INCA. Vous pouvez aller sur leur site pour en avoir tous les détails. Et aussi, il y a une formation iPhone aussi.
Le jeudi 29 février, une formation atelier techno sur l'iPhone, donc de 15h30 à 16h30. Et le mercredi de 13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30. Donc, pour ceux qui s'intéressent, effectivement, se rendre sur le site web pour avoir tous les détails.
Et si vous êtes déjà calé un peu en iPhone, là, il y a une formation intermédiaire qui va se tenir le 12 mars de 13h30 à 15h. Encore une fois, vous pouvez aller sur le site de l'INCA, obtenir tous les détails et on va partir de là, si je peux dire. Il y a une pièce de théâtre qui est en ce moment à l'affiche au Rideau Vert, qui est La Machine de Turing. Il va y avoir une représentation vendredi le 16 février, ça c'est dans 10 jours. À 19h30, c'est une représentation qui va être avec théâtre autodescription. Alors, théâtro-description, c'est joli comme mot, théâtro-description. Alors, on va parler de Alan Turing. Il y avait eu un très bon film à ce sujet-là avec M. Cumberbatch il y a quelques années. Alan Turing est un génie qui a participé, au cœur du décryptage du code secret allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, j'ai vu ce film.
Oui, décryptage qui avait été fait par les Britanniques. Mais malheureusement, on pourrait penser avec le recul que Alan Turing souffrait peut-être de troubles du spectre de l'autisme. En plus, il était homosexuel. Alors, à cette époque-là, voilà, ça l'a très mal viré pour lui.
Ça a compliqué la vie, oui, un peu, malheureusement.
Oui, finalement, il a été presque essentiellement mis de côté il est mort de façon assez terrible. Il a été mis au banc de la société. Voilà. Donc, cette pièce qui est intéressante, il va y avoir quand même des comédiens de haut vol, dont Benoît McGuinness. Et cette pièce-là sera présentée vendredi 16 février au Rideau Vert sur la rue Saint-Denis avec du théâtro-description ou de la théâtro-description.
De la théâtro-description, effectivement.
Voilà. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste juste à vous demander, Lisanne, vos prévisions pour le Super Bowl dimanche prochain.
Je ne m'avancerai pas en ondes et en direct, François. Je suis mêlée, je ne sais plus trop où donner la tête. Je croyais en une victoire des Chiefs, mais là...
C'est plus sûr. Il y a une théorie complotiste comme quoi c'est déjà dans le sac que les Chiefs vont gagner parce que...
À chaque fois que les Chiefs gagnent...
Il y a un truc là, c'est vraiment tordu, comme quoi Taylor Swift et Travis Kelce, c'est toute la frime, c'est pas vrai. Et c'est parce qu'après ça, ils vont gagner pour donner plus de visibilité et ils vont endosser les démocrates.
Ah, parce que clairement, ils en ont besoin. La pauvre Taylor Swift a vraiment besoin de visibilité ces jours-ci.
Ouais. Oui, encore un 4e Grammy pour le meilleur album hier. Cela dit, merci beaucoup encore à Mathieu Tessier à la techno, Élisane Pellerin et qu'on n'entend pas, mais qui est toujours là, Claire Guérin à la recherche. François Borgard qui vous dit à tous à la semaine prochaine. On verra le Super Bowl, comment ça s'est passé.
Après ces